Le titre est Monde, dis-moi tout, exercice de transcription. Et donc je parle
plante,
monde.
Nuage, feuille.
Donc c'est vrai ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression qu'il s'agit.
On accueille Maria Teresa au Cannes Centre d'Art pour cette année, pour l'exposition d'automne 2018. Et Maria Teresa a été en résidence cette année. J'aimerais te demander quel a été le point de départ de ton projet ici à Digne.
Mon point de départ est toujours la réalité. Et l'attention vers la réalité. Et le tentative de traduire dans une langue à une autre langue les phénomènes qu'on peut observer dans la réalité. J'étais inspirée par les bruits que j'entendais pendant mes promenades et par la nature, c'est-à-dire le feuille des arbres. Donc ces deux phénomènes, je l'ai observé comme des phénomènes, c'est-à-dire avec un esprit phénoménologique, si on peut le dire comme ça en français, et oui, avec des moyens différents. J'ai décidé de travailler sur les feuilles des dignes, c'est-à-dire des feuilles que j'ai cueillies, des feuilles des arbres, et je fais beaucoup de promenades et pendant ces promenades, j'ai enregistré les bruits qu'il y avait, donc le chant des oiseaux, les chiens, le fleuve, les cascades, parce que dans le parc promenade, il y a beaucoup de cascades. Je cherche de passer à travers des exercices de transcription, de passer d'une langue à une autre langue. Et après, j'expliquerai comment.
Cette attitude, en fait, cette approche que tu as eue, qui t'a mis en place pendant ta résidence, est quand même révélée dans le titre de l'exposition qui est assez spécifique. Et donc, tu peux nous expliquer comment et pourquoi tu as choisi ce titre.
Oui, donc le titre qui est Mondo dimmi tutto, esercizi di trascrizione. Donc, mondo, dimmi tutto, veut dire monde, dis-moi tout. Le titre est inspiré par les mots d'une poésie d'Andrea Zanzotto. Andrea Zanzotto est un des plus grands poètes contemporains. Il est mort il y a quelqu'un, italien. Et moi, j'ai eu la chance de lui connaître. Et donc, dans cette poésie, il y a. Donc il y a cette tension vers le monde, cette attention vers le monde et je voudrais indiquer avec ça l'effort humain de compréhension de la réalité. Et quand je dis compréhension, j'entends dans un sens étymologique, c'est-à-dire compréhension, comprendre, prendre avec soi et pour s'approprier de la réalité et pour jouir d'elle, pour l'aimer.
Donc cette tentative en fait de s'approprier des choses, tu l'as mis en place concrètement en fait à travers la série des dessins qui est montrée dans la salle d'exposition sur la gauche. Et comment en fait tu as réalisé ces séries de dessins?
Comme j'avais dit, donc pendant mes promenades, j'ai enregistré les bruits. Et donc, il y avait cette bande sonore. Et après, j'ai analysé chaque bruit. Et j'ai décomposé la bande sonore et j'ai analysé chaque bruit. Et j'ai cherché la forme visuelle de chaque bruit. Et chaque dessin est 10 cm par 10 cm. Donc sont très petits, mais les dessins forment une longue séquence donc, qui recompose cette bande sonore, mais dans une manière visuelle. Moi, je voudrais réaliser une sorte de partiture rythmique, une sorte d'alphabet. Et une sorte d'alphabet qui parle dans une certaine façon de notre façon de percevoir aussi. Parce qu'il y a, je pense que quand on regarde les dessins qui montrent, mais pas sur les pavés ou mais pas sur la terre ou sur les pierres, on peut voir des associations entre ces bruits et les dessins. Pour cette raison, les titres sont marqués. Donc, pour chaque dessin, il y a les titres, et les titres sont les bruits. Moi, je ne veux pas que le spectateur cherche avec obstination une association très, très, très proche et précise. Parce que ce que j'aimerais, c'est de simplement de lire, d'avoir l'impression d'être devant une sorte d'alphabet.
Est-ce qu'il y a une correspondance entre le son qu'on écoute et le geste qu'on fait avec la main au moment où on dessine, au moment où tout dessine?
J'écoutais évidemment l'enregistrement que j'avais fait, mais les bruits restaient dans ma tête et j'ai cherché de devenir ces bruits, et de devenir et de les voir en même temps. C'est vraiment plutôt une image mentale qui s'est formée dans ma tête et que j'ai cherché de reproduire.
Dans cette tentative d'être, disons, un instrument qui presque enregistre les sons et essaye de les transcrire, il y a aussi un effort de comprendre et de comprendre la réalité de façon objective. Comme est fait souvent, comme essaye de faire souvent le scientifique. Sauf que l'artiste, il n'est pas un scientifique. Et donc, c'est cette tension entre l'objectivité et la subjectivité qui joue un rôle très important dans ton travail et qui est aussi présent dans les photosténopées. Et donc, pourquoi tu as choisi la photosténopée et comment là, tu as travaillé à partir des feuilles des arbres qui doit récolter autour de Digne.
La photosténopée, c'est vraiment les moyens qui me fascinent. C'est-à-dire, c'est une boîte avec un trou, et la lumière qui passe à travers le trou imprime l'image dans le papier photosensible qui est dedans. Donc, c'est vraiment une sorte de processus physiologique, c'est-à-dire la boîte est la tête, les trous sont les yeux et la rétina, les papiers photosensibles qui est dedans. Donc c'est très mécanique, très simple. Et en outre, il y a beaucoup de variables sur lesquelles on n'a pas le contrôle. C'est une autre question qui est très fascinante parce que à la fin, les résultats finaux est une chose où toutes ces variables, c'est-à-dire dans le temps d'exposition est plutôt long par rapport à la photo, on peut dire, normale. Le temps d'exposition est vraiment très long. Et dans ce temps-là, beaucoup de choses peuvent passer. Donc la lumière peut change. Il y a des nuages, il y a le vent qui bouge ses feuilles, parce que le sujet était les feuilles. Donc moi, j'ai choisi ces moyens parce que c'est mécanique et c'est direct et on n'a pas le contrôle. On pourrait avoir un contrôle plus précis parce qu'il y a, par exemple, des instruments, on peut... qui peuvent, comment on peut dire, te dire, ils font un calcul, ils enregistrent la lumière qu'il y a dans un certain moment et ils peuvent te dire combien de temps doit durer l'exposition. Mais moi, je ne voulais pas travailler comme ça, je voulais travailler simplement avec mes sens. Donc j'avais un petit cahier où j'écrivais le temps pour chaque photo et chaque fois, j'ai changé un peu, plus ou moins, regardant la lumière, le moment, si c'était après-midi ou matin, des choses comme ça. L'objet, si l'objet était plus sûr, si la feuille était plus sûre ou plus claire en soi. Donc, toutes ces choses-là. Et après, il y a toujours une surprise. Donc, oui, moi, j'aime beaucoup cette dimension de la surprise.
Ces photos sténopées réalisées à partir des feuilles des arbres de vigne, tu les as aussi exposées à côté d'un traité des arbres, d'Arbus, qui vient de la collection du musée Gassendi et qui est un livre de botanique ancien du XVIIe siècle. Et pourquoi en fait exposer un livre d'une collection ancienne à côté de tes photos sténopées?
Il y a cette qu'on peut dire, nomenclature botanique qui est très précise, qui est scientifique. Et donc j'avais cette exigence d'avoir ce nom. Et pour cette raison, Diana Morricone m'a aidé à comprendre les différentes espèces de plantes, de feuilles. Et, mais il y a un décalage, et ça, il y a un point qui est très important pour moi. Il y a un décalage entre ces noms scientifiques et les images qui ne sont absolument pas utiles du point de vue de la précision, parce qu'il ne s'agit pas de photos, comment on peut dire, détaillées, où on peut voir des détails qui sont utiles. Donc à la fin, il y a toujours ce décalage. Et pourquoi? Pour moi, je suis intéressée plus par l'effort, donc par une objectivité atteinte, mais l'effort d'être objective. Donc oui, je pense que c'est la tension qui m'intéresse entre ces deux dimensions, pas une objectivité obtenue.
La photo sténopée, tu l'avais déjà expérimentée précédemment lors d'une résidence à la Fondation Camargo à Cassis. Et le résultat de ces expérimentations sont aussi exposés dans la salle d'exposition. C'était deux séries qui ont été réalisées à partir des photos sténopées des plantes et aussi des photos sténopées des nuages. Donc, quelle est la différence entre ces deux travaux, ceux qui t'ont réalisé à Camargo et ceux qui t'ont réalisé à Digne, et pourquoi tu as voulu les exposer en même temps dans la même salle d'exposition?
Je peux dire qu'ils sont différents, les photos sténopées que j'ai faites ici, mais ils représentent aussi une continuation. C'est-à-dire que là, j'avais fait des photos sténopées de petites plantes, pas de feuilles, de petites plantes. Et pendant ma deuxième résidence à la Fondation Camargo, j'avais fait des photos des nuages. Les titres, je pense, que de ces séries sont utiles pour comprendre pourquoi ils sont toutes présentes dans cette exposition. Donc le titre est Plantes, nuages, feuilles. Donc on est dans une série des éléments naturels. Donc dans une certaine façon, il s'agit d'une continuation. Mais il y a des différences. C'est-à-dire que dans les photos des cassis, moi, pour les plantes, moi, j'ai cherché les points de disparition, comment on peut dire, avant que l'image disparaisse. Et les temps d'exposition étaient vraiment très très longs, c'est-à-dire une heure et demie, quelquefois aussi deux heures. Et la deuxième série sur les nuages, au contraire, c'était sur un temps très très court parce qu'on devait capter un phénomène très fugace comme les nuages. Donc il s'agissait vraiment de quelques secondes. Donc oui, il y a des différences, mais ils sont aussi c'est une sorte de série qui continue et que j'espère qu'il va continuer dans le temps.
Et cette question de la fugacité, c'est présent aussi dans une vidéo, parce qu'effectivement, tu explores plusieurs médiums et c'est toujours pour interroger des questions qui sont autour du langage, de la transcription du passage d'un sens à l'autre, mais aussi de la volonté en fait de saisir un instant qui est en permanent qui se transforme en continu. Et donc, cette question de l'impermanence est aussi de l'instant est présente dans la vidéo qui s'appelle 20, Sud-Ouest, Sud, 20-29. Et donc, qui doit réaliser à Digne pour l'exposition.
Oui, donc il y a aussi dans ce travail-là, il y a un décalage, encore une fois, entre les titres et ce qu'on voit. Donc les titres sont très spécifiques, vent, sud, ouest, sud, vent, 29. Ça veut dire le vent, d'où il vient, donc sud, ouest, sud, et puis la vitesse du vent. Et quand on voit la vidéo, on voit simplement un arbre qui est bougé par le vent. Donc c'est vraiment une vidéo très simple. Et les mouvements, il y a ce que tu as bien dit sur cette variation continue. Il y a toujours presque le même mouvement, mais ce n'est pas vraiment le même. Et c'est la même chose qu'il y a dans les travaux sur le son des vagues. Et parce que c'est une question qui me fascine beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire la question des variations. Il y a une structure qui génère variations. Et ces variations sont toujours différentes, mais toujours, on peut toujours les reconduire à la structure générative, on peut dire, oui.
Oui, c'est ce qu'on voit effectivement dans la grande série des sons des vagues de la mer, qu'on voit accrochés sur le mur sur la droite, et dans laquelle effectivement la question c'est vraiment, l'artiste il devient une espèce de sismographe de vagues. Il essaye de se mettre de devenir un instrument presque et donc de laisser passer à travers lui le son qui se transcrit sous forme graphique.
Donc je m'assois sur la plage avec mes yeux sur le papier et j'écoute les vagues sans les voir. Je cherche la simultanéité entre la pression de ma main avec la graphite sur le papier et les bruits de vagues. Je cherche, comme tu as bien dit, de devenir un sismographe de vagues. Et c'est vraiment un exercice d'attention parce que on doit être vraiment là avec la tête, seulement là. Et ça, c'est pas très facile parce que la tête est pleine de pensées. Et pour devenir vraiment les bruits de vagues, la tête doit être vide. Et c'est pas facile. Moi, je ne médite pas. Ils m'ont dit que la technique pour réaliser ces graphiques est très proche à la méditation. Ce que je voudrais devenir, c'est de devenir une sorte de casse vide de résonance des vagues. Et donc, il y a des variations qui sont continues, et donc on doit soi-même devenir une variation. Et encore une fois, on peut dire que par rapport au travail sonore de dessins, de bruits, de lignes, il y a ce qui sort, c'est une sorte de partition musicale d'un phénomène physique, encore une fois.
La raison pour laquelle on a aussi ensemble décidé de le montrer, c'était que les sons, ils n'ont pas été enregistrés, écoutés par l'artiste à Digne, mais il y avait quand même une évocation de la présence de la mer qui était là, qui était dans ce territoire il y a des millions d'années, le montrent en fait tous les fossiles et les traces qui restent de cette présence ancienne de la mer. Donc c'était un peu aussi comme une évocation d'une présence ancienne qu'on a essayé de mettre en parallèle avec des balades, des promenades que l'artiste a réalisées aujourd'hui. Ce dialogue entre un processus artistique et la science se poursuit au musée Gassendi, dans lequel on a voulu exposer une autre vidéo de l'artiste qui s'appelle Les raisons de la science, qui justement interroge la, cette tension entre la, le subjectif, le cas personnel et le, les grands principes et les théories générales de la science. Donc pourquoi Maria Teresa, tu as voulu le présenter, associé à cette exposition, cette vidéo qui a été aussi réalisée précédemment, mais qui rentre tout à fait dans le propos de cette exposition?
Donc, comme tu as dit, Julia, les principes, donc la tension entre subjective et objective. Donc, il y a ce décalage entre image et théorie générale, il y a toujours un décalage. Et, mais la voix s'accroche obstinément et continue avec cette explication scientifique. Donc, techniquement, il s'agit d'un collage des morceaux de vieux films et des documentaires historiques d'archives où on peut voir événements de l'histoire humaine. Mais par contre, la voix qui accompagne les images explique scientifiquement des phénomènes physiques. Et donc, quand on voit la vidéo, on a forcément des associations qu'on fait entre les mots qui sont... qui font partie de l'explication et les images. Et c'est un travail pour moi sur l'inclination humaine de chercher des associations donc, entre le cas individuel, subjectivement vécu, et le principe général. Et je dois dire que quand j'ai vu le musée Gassendi la première fois, donc le musée d'histoire de la science et de l'art, oui, j'ai pensé à cette vidéo parce qu'il y a cette comprésence.
Merci Maria Teresa pour cet échange qui est toujours très, très, très constructif et très, très utile pour comprendre ton univers. Et donc, merci d'être là.
Merci Julia. Non, pour moi, c'est toujours utile de parler. De voir cet échange parce qu'on comprend mieux ce qu'on comprend.
Une conversation entre Maria Teresa Sartori et Julia Pagnetti, un montage sonore réalisé par Anne Perrier.